With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Activiste en compagnie d'Esther et de deux de ses invités. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux membres de l'association Les Dévalideuses, une association anti-féministe créée en 2019 et qui se bat pour visibiliser notamment la double oppression vécue par les femmes handicapées, ou plus si elles sont à l'intersection d'autres discriminations. Et je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, car vous êtes les mieux placées pour nous en parler. Les Dévalideuses, c'est quoi plus précisément ?
Alors, Les Dévalideuses, c'est un collectif anti-féministe, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois, on lutte contre le validisme et contre le sexisme. Et c'est un collectif de femmes handicapées.
Alors, anti-féminisme, justement, je ne suis pas sûre que ce soit un terme avec lequel tout le monde soit familier. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il y a besoin, en fait, du anti-féminisme ?
Le handiféminisme, en fait, c'est le lien entre l'handicap et le féminisme. Et il y en a besoin parce qu'en fait, les femmes handicapées vivent une double discrimination, c'est-à-dire le fait d'être handicapée et le fait d'être femme. Ça fait une double discrimination qui se croise. Par exemple, les femmes handicapées sont 4 fois plus victimes de violences que les femmes valides. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a besoin, de l'handiféminisme. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit plus populaire.
Que ce soit plus connu, quoi, plus... Parce que c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas, je pense, hyper utilisé dans l'espace public pour l'instant.
Ouais, c'est ça.
Oui, le validisme, c'est... Dans les différentes luttes sociales, c'est vraiment une des moins connues. Ça fait seulement quelques années qu'on en parle, mais ça reste dans les milieux militants. Et le grand public connaît très peu le validisme. Et donc, aux Dévalideuses, on essaye de mettre le paquet sur la pédagogie autour de ce terme et de cette oppression.
Alors justement, on vient d'utiliser le mot, mais sans l'avoir vraiment défini, donc pour des gens qui n'auraient jamais entendu le terme, concrètement, le validisme, ça décrit quoi ?
Le validisme, en fait, c'est la discrimination envers les personnes handicapées. Donc c'est un système de discrimination au même titre que le sexisme, le racisme ou l'âgisme. Et donc en fait, c'est un système de discrimination qui fait que les personnes handicapées, enfin, qui fait que la société n'est pas adaptée aux personnes handicapées, qui fait que, par exemple, l'espace public n'est pas accessible, qui fait qu'on regarde les personnes handicapées comme inférieures, qui fait que l'école n'est pas accessible aux personnes handicapées, par exemple. Et tout ça, en fait, ça fait plein de discriminations au quotidien pour les personnes handicapées. Et nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre.
Ok, alors on va aller un peu plus dans les détails. Justement, tout à l'heure, Clémentine, tu parlais du fait que les femmes handicapées sont 4 fois plus victimes de violences. Donc c'est un sujet sur lequel vous travaillez, j'imagine ?
Oui, on travaille sur ça, justement. On va travailler avec la Fondation des Femmes pour orienter les femmes handicapées vers des avocats, notamment. Voilà, donc nous, on reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui sont en détresse. Et même si on n'est pas spécialement orienté vers ça non plus, on essaye de les orienter vers des associations de victimes comme Femmes Dire, Femmes pour Agir, pour les aider à sortir de cette situation.
Mmh. Ouais, c'est justement, J'ai lu un article tout récemment dans lequel cette association Femmes pour le dire, Femmes pour agir expliquait que finalement, en fait, on avait assez peu entendu, vu de témoignages de femmes handicapées au cours des grosses vagues de témoignages sur les réseaux sociaux type MeToo, MeToo Incest, etc. Et justement, l'association avait essayé de lancer un autre hashtag qui était, si je ne me trompe pas, je veux pas dire, voilà, handicap inceste, pour encourager en fait les personnes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles à témoigner aussi. Comment vous expliquez-vous que finalement, alors que on a des chiffres a priori qui nous disent qu'elles sont davantage victimes de violences, on les entend moins?
Alors, en fait, les dévalideuses, le collectif s'est créé sur le constat de cette invisibilisation des violences faites aux femmes handicapées. En fait, c'était au cours de la marche Nous Toutes, la première, donc en 2018. Moi, je voulais donner un petit peu de visibilité à ces questions-là. Je n'avais pas pu participer à la marche, mais je me disais, je vais relayer les informations et ce qui aura trait au handicap, sachant que c'était un sujet qui nous concernait particulièrement. Et en fait, j'ai vu aucune information, aucun témoignage passer sur ce sujet-là. Et donc, j'ai lancé un appel sur Twitter. Et là, il y a énormément de personnes, de femmes handicapées, qui m'ont répondu, ouais, on fait un truc, on se rassemble. Et donc, c'est né de ce constat-là. Alors, pourquoi on n'en parlait pas et pourquoi maintenant on arrive collectivement, petit à petit, à faire émerger ces sujets? Pour plein de raisons. Parce que le féminisme n'a jamais vraiment fait de place à nos particularités, ne nous a jamais inclus, que ça soit physiquement, parce que les milieux militants pensent rarement à l'accessibilité des lieux et à théoriquement aussi à nous inclure dans la classe des femmes et dans les particularités à étudier. Donc c'est un peu le cercle vicieux, on ne pense pas à nous et nous on ose moins prendre la parole parce qu'on se sent isolé dans ces situations un peu différentes des femmes valides. Et voyant qu'on n'en parle pas, les femmes handicapées osent peu dénoncer et prendre cette parole.
Est-ce qu'on sait, pour rester un peu pour l'instant sur le sujet des violences, à quoi sont dues ces violences, ces chiffres qui montrent que, vous le disiez tout à l'heure, 4 fois plus... d'ailleurs, je ne sais pas, c'était Clémentine qui donnait ce chiffre, je ne sais pas d'où vient ce chiffre précisément. Je sais que moi, j'avais fait des recherches à un moment donné et j'avais eu du mal à trouver des chiffres fiables, justement.
C'est un problème, en fait.
Ce chiffre, il vient de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a fait donc, un travail sur les violences contre les femmes handicapées. Et pour moi, ces violences, elles sont dues au fait que les femmes handicapées sont plus vulnérables au sein du cercle familial, au sein du cercle des institutions. Et donc, comme il y a plus une vulnérabilité, c'est plus facile que les violences s'installent, parce qu'elles peuvent moins partir, elles peuvent moins s'autonomiser par rapport à leur famille. Et donc, c'est cette vulnérabilité qui fait qu'il y a plus de violences.
Il y a aussi le fait que ça soit impensé dans la société. Les violeurs ou les abuseurs divers savent que les personnes handicapées parleront moins. La société n'imagine pas qu'on puisse faire ça à une personne handicapée, parce que la personne handicapée est auréolée de pureté et de tout le monde les aime, a priori, et c'est des petites choses fragiles qu'on protège. Et les gens ont du mal à concevoir ça. Et en tant que violeur, que prédateur, je pense qu'ils se sentent encore plus protégés par ça. Ils ne seront pas soupçonnés. Il va pas faire ça à une handicapée, quand même.
Est-ce qu'on pourrait dire, en fait, que c'est un corollaire de les termes que vous utilisez chez les dévalideuses, c'est de l'infantilisation et de l'infériorisation dont les personnes handicapées font l'objet.
Oui, c'est ça, oui, oui. On nous couve, on nous materne beaucoup trop, et dans l'imaginaire, c'est ça. Sauf que couver et materner, c'est avoir une emprise. Et l'emprise, on sait ce que ça peut faire comme dégâts.
En fait, ça crée une voie vers des schémas de relations, même éventuellement toxiques, j'imagine, dans le couple et dans les cellules familiales.
Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça crée des failles, en fait, dans les couples et dans les cellules familiales. Donc, ça crée des failles qui vont lier à des relations, qui vont finir par des relations toxiques, comme la conjugalisation de la AAH. Actuellement, les femmes handicapées sont dépendantes de leur conjoint pour l'argent, parce que si jamais le conjoint touche plus de 2500 euros, la AAH est supprimée. Donc là, ça crée aussi une situation de vulnérabilité financière, et donc qui est le terreau de relations toxiques.
Alors, juste pour bien que tout le monde comprenne, je pense que la AAH, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Donc, on parle de l'allocation adulte handicapé. Est-ce que Clémentine ou Céline, vous pouvez expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne en ce moment? Donc, tu viens de commencer à en parler un peu, Clémentine.
Donc, la AAH, c'est une allocation de 902 euros par mois que touchent les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler, donc après avoir fait un lourd dossier à la MDPH. Et actuellement, en fait, si jamais la personne handicapée est en couple, la AAH est calculée en fonction des revenus du couple. Et donc, si jamais la personne en couple avec la personne handicapée touche plus de 2500 euros, la AAH sera supprimée.
Touche plus de combien, pardon?
Alors que c'est une allocation qui permet de... touche plus de 2500 euros.
2500 ou 1500?
Environ.
2500.
Ok, donc à partir du moment où le conjoint d'une personne handicapée touche cette somme-là, en fait, on supprime les revenus de la personne handicapée. Et donc, ça crée une forme de dépendance qui est propice aux violences.
Propice aux violences et une impossibilité d'en sortir. Parce que pour une femme handicapée qui se retrouve sans revenus, les solutions pour s'échapper sont très rares. Être hébergé dans la famille ou chez des proches quand on a un handicap, c'est pas souvent facile, parce qu'il faut que ce soit accessible ou parce qu'il faut diverses conditions, parce que les foyers d'accueil de femmes victimes de violences prévoient rarement l'accessibilité et l'accueil de nos particularités. Et bon, on sait comme c'est déjà difficile pour une femme valide de sortir de ces relations-là. Une femme handicapée, ça l'est d'autant plus. Et sans aucun revenu, c'est une impasse. Parce qu'elles pourront toucher à nouveau la AAH seulement une fois qu'elles prouveront qu'elles n'habitent plus avec cette personne. Donc, c'est...
Et alors, en ce moment, justement, il y a... toute une campagne pour essayer d'obtenir une évolution en la matière. Concrètement, qu'est-ce que vous menez comme action? Enfin, qu'est-ce que vous défendez comme évolution sur le sujet?
Nous, ce qu'on veut, c'est que la AAH ne dépende plus du revenu du conjoint, donc il y a une déconjugalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a participé à des manifestations sur le sujet, qu'on a signé des tribunes et tout ça.
Est-ce qu'il y a en février dernier, on avait il y avait une pétition qui avait circulé sur le sujet pour contraindre le Sénat à étudier le dossier, ce qui a été fait puisque les 100 000 signatures avaient été obtenues. Là, il y a de nouveau une pétition qui circule pour l'Assemblée nationale cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez expliquer les enjeux un petit peu?
Oui, donc là, le 17 juin, le projet doit repasser à l'Assemblée nationale maintenant. Donc il y a à nouveau une pétition qui tourne parce que en fait l'affaire est loin d'être gagnée encore. Les députés, enfin la majorité présidentielle est loin d'être pour. La secrétaire d'État aux personnes handicapées est fermement opposée. Donc le combat est encore plus que jamais d'actualité.
cette pétition, en quelque sorte, c'est pas comme n'importe quelle pétition qu'on... Enfin, ça contraint pas forcément à quoi que ce soit. C'est quoi la différence avec celle-ci ?
La différence, c'est que pour signer, il faut se connecter sur son compte France Connect. Et ça, je pense que ça peut bloquer des gens qui n'ont pas forcément de compte France Connect. Mais voilà, ça prend quand même pas très longtemps de le faire. Et c'est dommage que ça bloque qu'une pétition Change puisse avoir plein de signatures et pas celle-là.
Là, c'est une pétition très officielle sur le site de l'Assemblée nationale lui-même.
C'est en fait un peu à la manière, est-ce que un peu à la manière du Sénat où c'était pour contraindre l'étude de ce texte, ça fonctionne pareil avec l'Assemblée nationale ou pas du tout ?
Là, de toute façon, l'Assemblée nationale va étudier le texte. Pour le Sénat, ça a déclenché l'étude.
Ok, donc là, l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a vraiment 100 000 personnes qui ont signé une première fois, qui sont prêtes à signer une deuxième fois pour montrer que le sujet est important. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement et en particulier la personne qui est censée vraiment prendre en charge ces questions-là sont opposées à cette évolution. Moi, ça me paraît complètement dingue. Et je pense que, en fait, quand on vient de vous entendre décrire pourquoi c'est important que ça change, on se dit, quels arguments pourraient être utilisés contre ça ? Donc, c'est quoi leurs arguments pour dire non, c'est pas la peine de changer ?
Leurs arguments, en fait, c'est qu'ils disent que cet argent va être utilisé pour favoriser le travail des personnes handicapées et que l'AAH est un minimal social et que tous les minimales sociaux sont calculés en fonction du revenu du conjoint.
Mais l'argument financier n'a jamais été vraiment étayé par des chiffres. On nous a promis des études chiffrées et qui n'ont jamais vraiment paru et qui peuvent être démontées assez facilement. Ça ne coûterait pas des sommes folles. Et c'est un vrai problème de justice sociale, quoi.
Et puis même, j'ai bugué, en fait, parce que cet argument de tous les minima sociaux sont calculés sur cette base-là, ok, mais en fait, c'est encore une fois faire fi des particularités dont vous parliez tout à l'heure, finalement.
Voilà, après, nous, de base, on est aussi pour la déconjugalisation de tous les minima sociaux, parce que c'est une vision patriarcale éculée du couple. La solidarité familiale, c'est quand même une chose discutable. Donc voilà, déjà de base, ça nous paraît pas un bon argument de dire c'est comme ça pour tous. Les autres aussi, on veut bien les voir, les voir évoluer. Mais voilà, en plus, le handicap est quand même un facteur hyper aggravant au niveau des violences. Et d'autant plus que en tant que minima social, c'est un peu différent parce que quand on touche l'AAH, c'est qu'on ne peut pas travailler. Généralement, c'est pas une situation transitoire. Contrairement à la plupart des minima sociaux qui sont le temps de retrouver un travail, le temps que les enfants grandissent ou que... C'est temporaire. Nous, c'est pour toute la vie. Donc, l'alternative entre vivre seul et subvenir à ses besoins, avoir de quoi gérer son quotidien et ses besoins, ou vivre en couple, mais au crochet de son ou sa partenaire, et devoir quémander pour de l'argent de poche, quoi. Donc bon, quand c'est pour une situation durable, c'est vraiment pas acceptable.
Oui, clairement, ça crée des difficultés. Donc, on mettra bien sûr dans les liens du podcast les liens pour aller signer cette pétition et on va suivre sur Activiste de toute façon l'évolution de ce sujet jusqu'au 17 juin. J'aimerais bien qu'on continue un peu à creuser les sujets qui sont les vôtres avec les dévalideuses avant de s'attaquer un peu à vos parcours respectifs. Dans vos missions, à l'association, vous listez aussi la volonté d'aider à la diffusion des Disability Studies. Alors déjà, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est, les Disability Studies ?
Les Disability Studies, c'est un peu l'équivalent des Gender Studies, mais appliqué au handicap. c'est quelque chose qui a été beaucoup développé depuis les années 70, je crois, dans les pays anglophones, qui a eu beaucoup plus de mal à s'immiscer en France, y compris la notion de validisme, qui a existé à l'étranger beaucoup plus tôt qu'ici. C'est pour ça que le grand public est encore loin de la connaître, parce que pour le moment, elle est théorisée voilà, en milieu universitaire et militant, mais elle n'a pas encore eu le temps de faire son chemin. Et au-delà des disability studies, nous on promeut aussi tout ce qui est crip studies. C'est la version un peu plus queer des disability studies, donc qui croise davantage d'oppression et qui a une vision un peu plus militante de ces sujets-là.
Et alors, en gender studies, on a quelques grandes théories. Bon, bah, voilà, enfin, théorie non d'ailleurs, il ne faut pas utiliser ce terme car souvent le genre n'est pas une théorie, ça peut être très mal interprété. Mais en gros, il y a quelques grands concepts, on va plutôt utiliser ce mot-là. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu ce que disent en fait ces disability studies, ces crip studies, les grandes tendances qui se dégagent sur ces sujets-là?
Alors, le socle des disability studies, ça a été le passage du modèle médical du handicap au modèle social. Le modèle médical, c'est quelque chose qui envisageait le handicap uniquement sous l'angle de la déficience individuelle. Le handicap était quelque chose d'intrinsèquement difficile pour nous. On était déviant de la norme et il fallait nous faire rentrer dans la norme, nous guérir et gommer, réparer ces déficiences. Et le modèle social voit ça sous l'angle collectif et sociétal, c'est-à-dire que le handicap est la résultante d'un environnement inaccessible. Si l'environnement était complètement accessible, le handicap s'effacerait. Et cette vision-là a permis l'émergence d'une parole militante qui n'était pas du tout possible avant.
Et alors pourquoi est-ce que, enfin, comment on explique en fait que ces études elles soient si peu connues et accessibles en France en particulier?
Bah parce qu'en France on est très axé sur le modèle médical du handicap, donc et puis il y a pas vraiment de master, de doctorat spécialisé en études du handicap au niveau des universités. Il y a pas de structure pour accueillir ce genre de travaux de recherche, donc ces travaux de recherche ont du mal à se développer. Et c'est pour ça, en fait, que bah, y a pas de recherche là-dessus, quoi.
En France, la parole militante a été vraiment captée jusqu'à assez récemment par des grosses associations gestionnaires d'institutions. Et c'est des associations qui sont menées par des personnes valides, par les proches des personnes handicapées ou malades. Et ça a beau être des proches, ils sont valides et ils reproduisent un discours validiste et vraiment fixé sur ce modèle médical. Et longtemps, ça a été la seule parole sur le handicap en France, en fait.
Donc l'enjeu, en fait, à diffuser davantage les disability studies et les crip studies, c'est aussi de permettre, bah, sociétalement, de prendre conscience que, en fait, le problème, il vient du contexte. Et est-ce que individuellement aussi, ça permet aux personnes handicapées de conscientiser l'oppression dont elles sont victimes, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas si on n'a pas accès à ces savoirs-là?
Oui, clairement. Enfin, on s'appuie beaucoup sur les disability studies pour appuyer notre propos. Donc oui, je pense que ça permet aux personnes handicapées de conscientiser leurs oppressions. Voilà.
Au-delà des études universitaires, nous on a envie de développer une crip culture. Alors crip, c'est un mot qui vient de l'anglais cripple, qui veut dire estropié, Et les militants anglo-saxons se sont réappropriés ce terme. Donc on n'a pas vraiment d'équivalent en français, donc on utilise le même, on utilise creep.
Alors justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais venir à parler de creep culture, et c'est quand même déjà assez parlant qu'on n'ait pas de mot en français, ni pour creep culture ou creep studies ou disability studies. On est obligé de recourir au terme anglais pour ça, en fait.
Un peu de la même façon qu'on a assimilé le mot queer. C'est vraiment le même mécanisme. Bon. Et donc oui, ça, on pense que c'est important aussi, au-delà des études universitaires, de pouvoir se réapproprier cette identité au-delà d'une déficience, comme on décrivait ça avant. C'est aussi juste des particularités, des vécus différents, une histoire collective différente. Il y a des tas de personnalités formidables qu'on devrait connaître sans en faire des héros, des surhommes, parce que ça, c'est le travers habituel de la société qui a tendance soit à nous prendre en pitié, soit à nous prendre en héros. Et bon, il ne faut pas non plus verser là-dedans. Mais nous-mêmes, entre nous, on tient à se rassembler et à faire un peu communauté pour se donner la force et les moyens d'agir collectivement, puisqu'on a rarement eu ça. On est rarement rassemblés autrement que dans les institutions qu'on déteste par ailleurs, parce que c'est pas des lieux qui permettent de faire des projets militants, parce qu'on est sous la coupe de professionnels médicaux valides, et on n'a pas vraiment de lieu de rassemblement entre handis. C'est pour ça aussi que au Dévalideuse, on fonctionne en non-mixité. On est uniquement des femmes handicapées.
Et alors justement, c'est quoi vos méthodes pour contribuer finalement au développement et à la diffusion de cette creep culture?
Notamment, on a fait un calendrier de vulgarisation autour du validisme. Et donc en fait, pendant 30 jours, on a publié des petits éditos qui expliquaient un concept lié à l'antivalidisme. Et donc par exemple, il y avait un édito « Je fais connaître la creep culture », il y avait un édito « Je ne touche pas les fauteuils des personnes handicapées ». Enfin, on essaie de faire un travail de vulgarisation pour que la creep culture devienne plus populaire et que les personnes handicapées s'en emparent pour être plus empowerées, ce genre de choses.
Oui, pour ça, ben, les réseaux sociaux, c'est quand même formidable. Pour tous les milieux militants globalement, mais d'autant plus quand on a des handicaps qui nous empêchent souvent de nous rassembler pour des raisons d'accessibilité ou de santé diverses. Les réseaux sociaux nous permettent de nous retrouver, de faire corps et de communiquer et de s'allier. Et ça, c'est important pour une culture. Il faut pouvoir faire corps quelque part, et même si c'est un corps virtuel, ça marche. Et ces dernières années, on sent quelque chose qui émerge vraiment.
Et alors, les personnes qui seraient intéressées justement pour participer de ça, où est-ce qu'elles peuvent vous rejoindre? Sur quels espaces virtuels?
On est principalement très actifs sur Twitter. Et puis on a un site aussi où il y a toutes les informations, les personnes peuvent adhérer et nous suivre.
Alors, maintenant qu'on a un peu déblayé ce qu'est les dévalideuses et quels sont ses principaux combats, j'aimerais savoir un petit peu comment chacune d'entre vous est venue à l'activisme. Déjà, est-ce que vous vous souvenez, l'une et l'autre, des premières choses qui vous ont indignées plus jeune, si vous retournez même quand vous étiez des enfants, quoi, est-ce que vous vous souvenez des premières choses où vous vous êtes dit « Ok, non mais ça, c'est pas juste ».
Alors moi, j'ai commencé par m'indigner pour les autres, C'est pas que j'étais particulièrement généreuse, hein, je pense pas, mais je pense que le discours sur le handicap, donc moi je suis tétraplégique et depuis toute petite, donc j'étais déjà en fauteuil étant enfant, et le discours, le regard qu'on posait sur moi, c'était celui d'une petite fille courageuse qui avait toujours le sourire et qui se plaignait pas et qui était formidable, et même si au fond j'avais pas mal de personnalité et que je savais ruer dans les brancards, il y avait quand même ce côté ne pas trop se plaindre qui a forcément infusé ma pensée. Et donc j'étais plutôt révoltée sur les sujets de société et tout ça, et j'ai mis beaucoup de temps à accepter de revendiquer et de protester pour des choses personnelles qui concernaient le handicap. Et d'ailleurs j'ai été initiée au militantisme déjà par le féminisme, via Twitter, et comme un peu toute notre génération. J'ai trouvé le féminisme passionnant, et au bout d'un moment je me suis dit ouais, mais moi peut-être que là-dedans j'ai une parole particulière à tenir sur le handicap. Peut-être que ça peut être intéressant que je dise pas les mêmes choses que les autres, vu que je vis pas les mêmes choses que les autres. Et petit à petit j'ai accepté de m'orienter plus vers l'antivalidisme, mais pour moi ça n'a pas été un chemin naturel. Il m'a fallu ce détour.
Ok, on va y revenir. Et toi, Clémentine, est-ce que tu te souviens des premières choses voilà, qui t'ont indignée ?
Oui, alors moi, c'était plutôt le féminisme, en fait. Plutôt la condition des femmes qui m'a indignée très jeune. Donc j'ai grandi avec une mère féministe qui m'a donc initiée à ces genres de combats. Et donc moi aussi, pour revenir à l'antivalidisme, j'ai mis du temps déjà à prendre conscience que j'étais handicapée et à prendre conscience que j'étais touchée par le validisme. Parce que quand on est touché par des handicaps psy et dyspraxie comme moi, c'est un cheminement plus long. Mais voilà. Et il y a aussi le mariage pour tous qui a été mon premier combat militant, entre guillemets, j'avais 14-15 ans. Et donc ça a été pour moi la première occasion où j'ai compris qu'il y avait des vraies discriminations envers les personnes queer. Et donc où j'ai pris la parole et tout pour lutter pour le mariage pour tous.
Alors c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression que l'une comme l'autre, finalement, vous êtes... Vous êtes passé par d'autres portes pour parvenir là où vous êtes actuellement. Est-ce que avant les dévalideuses, vous avez fait partie d'autres organisations ou c'était plus un engagement de l'ordre de la parole, de la prise de parole, sans forcément être dans des collectifs, par exemple ?
Non, moi, j'ai pas milité au sein d'autres collectifs. En fait, étant enfant, mes parents étaient impliqués à l'AFM. Donc ce genre de grosses associations que maintenant je critique un peu vertement.
C'est quoi l'AFM pour les personnes qui ne sauraient pas ?
L'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies, et en particulier qui organise le Téléthon. Et le Téléthon qui est un temple de validisme. Donc bon, aujourd'hui je suis très critique. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là, et bah forcément c'était une parole pas très militante et qui me parlait pas énormément. Donc en grandissant, j'ai pas eu envie de continuer avant de comprendre qu'il pouvait y avoir une autre parole plus péchue sur le handicap.
Moi, donc, non, en fait, ça, mon militantisme passait par des prises de parole, par des discussions avec des amis où je défendais mes idées. Mais non, les Valideuses, c'est le premier collectif où j'ai été investie vraiment. Parce qu'avant, je trouvais pas de collectif qui respecte mon identité en tant que femme et en tant que personne handicapée.
Donc finalement, les Valideuses, ça répondait à ce besoin-là. Je crois que Céline, toi, tu as participé donc à créer ce collectif. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait te dire que, ok, maintenant là, c'est nécessaire ? On en a un peu parlé tout à l'heure, tu parlais des... De la marche Nous Toutes.
Oui, ça a été la marche Nous Toutes, mais je dis toujours que ça s'est fait un peu par hasard, parce que au moment où j'ai lancé mon appel, J'avais vraiment pas idée que ça deviendrait les dévalideuses. Je m'imaginais avoir deux, trois meufs qui me répondraient et qui me diraient « Ouais, on va écrire un petit texte, quoi. » Et où on va faire un slogan, je sais pas. Et en fait, il y a 60 meufs qui m'ont répondu et qui étaient hyper chaudes. Et du coup, une fois que j'avais lancé ça, il fallait bien en assurer. Et bah, après, tout le monde a mis la main à la pâte. Mais ça a été vraiment bouillonnant. Et le déclic, il est venu dans le bouillonnement. Il fallait suivre le mouvement. Il fallait... Ok, on y est. Et ben, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais vraiment aucune expérience du militantisme. Et j'ai appris sur le tas. Et c'était génial. Mais gros baptême du feu, quoi.
Comme quoi, c'est possible, même quand on n'a jamais touché à ce que sont des associations, etc., de créer la sienne. Toi, Clémentine, comment est-ce que tu as décidé de rejoindre les dévalideuses?
Bah, moi, en fait, j'ai fait partie du premier appel avec les 60 meufs qui sont venues sur le Discord. C'est un appel qui s'est pas très... Enfin, en fait, on était trop nombreux sur le Discord pour que ça soit vraiment un truc qui prenne forme. Donc ça n'a pas marché. Mais je suis restée en contact avec Céline parce que j'étais très motivée. C'est Céline qui m'a recontactée quelques mois plus tard en me disant « Bon, bah, on a créé les dévalideuses, cette fois-ci on crée un petit comité. Est-ce que tu peux nous rejoindre ?» Et moi j'ai tout de suite dit oui.
Ok. Et alors, l'une comme l'autre, est-ce que immédiatement vous avez eu le sentiment que ce que vous faisiez était politique ? Vous aviez déjà cette conscience-là ? Ou est-ce que c'est en le faisant que vous avez pris conscience de l'aspect politique de cet engagement?
Moi, je dirais que j'ai tout de suite perçu ça comme étant politique. Ce rassemblement à 60 bouillonnait tellement d'idées et de projets vraiment constructifs. Ça donnait vraiment envie de faire la révolution tout de suite. Et bon... Parmi toutes ces discussions-là, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui avaient besoin de se confier, de partager leurs histoires et tout ça. Mais c'est vrai qu'on avait envie de rester quand même focalisé sur un objectif concret, politique. On voyait tellement tout ce qu'il y avait à faire.
Et alors, vous avez... Donc ça remonte à quand, la création des dévalideuses? Quelle année?
Le premier rassemblement, c'était fin 2018, et on a mis un an pour lancer le collectif vraiment fin 2019.
Donc 2019, vous, à ce moment-là, j'imagine que l'une comme l'autre, vous avez déjà bâti vos idées sur le sujet, qu'il faut quelque part juste leur donner une forme, quoi, un contexte dans lequel elles puissent s'exprimer. Est-ce que vous avez constaté que... moi, je pose souvent cette question de la légitimité aux invités, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas capables ou pas légitimes à s'engager, à créer une association. Est-ce que vous avez eu des freins à l'engagement de ce type-là ou d'autres types?
Moi, je me disais que, compte tenu des handicaps légers, j'étais pas forcément légitime. Mais finalement, je pense que c'est pas tant le handicap qui fait le fait qu'on est légitime, c'est plus la pensée politique. Enfin, le fait de politiser le handicap qui fait qu'on est légitime.
Oui, moi, je... Mon handicap, j'ai jamais eu de soucis de légitimité en tant que handicapé. Il est tellement visible que j'ai jamais pu le nier. Par contre, en tant que militante, oui, je me suis sentie au début un peu escroc, un peu pas à ma place. Enfin, je me suis dit, je vais rien dire, je vais rien savoir dire. Ils vont voir que j'ai aucune connaissance en féminisme, en antivalidisme. Et en fait, si, on a des connaissances, ne serait-ce que par notre vécu, parce que bien sûr, on s'intéresse et on accumule les expériences et les connaissances. Et sur toutes les personnes qui nous ont rejointes, plus des trois quarts nous ont dit « Mais par contre, moi, je ne suis pas militante. Hein. Je ne sais rien faire. Hein. » Et c'est terrible. Mais c'est aussi pour ça que la non-mixité est essentielle. Parce que, entre nous, on apprend à voir que si, bien sûr, on est militante à partir du moment où on se rejoint sur ce genre de paroles et où on a envie de faire des choses ensemble.
Ça, c'est quand même un schéma qui est ultra classique, ce syndrome de l'imposture. Combien de personnes sur Activiste m'ont dit bah, au départ, j'avais l'impression que c'était pas trop, que j'allais pas trop savoir faire, que c'était pas trop ma place, etc. Qu'est-ce que vous diriez maintenant à la personne que vous étiez l'une et l'autre à l'époque et qui peut-être se disait bah non, c'est pas pour moi?
Ben, moi, je dirais fake it until you make it. Ça marche, c'est idiot, mais ça marche vraiment très très bien. On commence par faire, on fait comme si on savait, et puis c'est un peu magique. En faisant, ben, on apprend et ouais, on sait faire. Il faut vraiment pas hésiter à se lancer et à faire semblant, quoi. Il y a cette situation qu'on ressort souvent en féminisme qui est et la confiance en toi d'un homme blanc médiocre. Ils le font, pourquoi on ne s'autorise pas à le faire, quoi?
Complètement. Et de ton côté, Clémentine?
Bah, moi aussi, au début, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur, parce que, bah, pareil, c'était ma première, mon premier engagement dans une assos, parce que j'avais pas tant de bases théoriques et tout ça. Mais oui, voilà, j'ai appris sur le tas, j'ai lu des choses, je me suis renseignée, et donc ça a marché, quoi.
Est-ce que dans vos parcours militants, est-ce que parfois vous êtes gagné par une forme de découragement, de fatigue militante, on a l'impression de donner tellement et que ça avance si peu?
Alors, de fatigue, oui, beaucoup, parce qu'il y a tellement à faire, mais de découragement, moi, jamais, parce que bah, on est vraiment agréablement surprise par les retours qu'on a. Quand on a lancé l'idée valideuse, tout de suite, on a eu d'excellents retours, autant de la part des personnes handicapées qui avaient envie de nous suivre, qui avaient envie qu'on fasse des choses et de faire des choses avec nous, que de la part des personnes valides, des autres collectifs féministes ou autres, qui nous sollicitent, qui nous demandent des infos, qui nous demandent ok, apprenez-nous le validisme, quoi, et qui relayent énormément notre parole. Et franchement, on est agréablement surprise, et il y a tellement d'attentes qu'on n'a pas envie de se décourager, on a envie d'aller toujours plus loin. Et effectivement, on est très très fatigué, mais bon, non, c'est hyper stimulant et hyper motivant.
Est-ce que dans les moments où quand même la fatigue est présente, vous avez des petites méthodes pour vous rebooster, pour repartir au combat justement?
Moi, j'écoute de la musique forte. Voilà, c'est pas très compliqué, mais j'écoute de la musique, j'essaie de voir ce que font les autres assos pour me remotiver, pour me dire voilà, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme elles.
Ouais, c'est exactement le genre de réponse que je cherche, parce qu'en fait, bah, typiquement, ce truc d'aller voir ce que font les autres pour se dire « Ok, on n'est pas tout seul, en fait, et il y a plein de choses qui se passent », je pense que c'est un bon réflexe à développer pour pas avoir ce sentiment d'impuissance et de... Ouais, voilà, d'échec à se dire « Ok, on veut que les choses changent et on a l'impression que ça avance pas assez vite par rapport au rythme où on voudrait que ça aille, quoi ». J'aime bien demander en fin d'interview à mes invités si il y a des personnes qui les ont inspirées à l'action dans leur vie, qui les ont inspirées à s'engager, voilà, des figures, que ce soit dans votre entourage proche ou au contraire des personnes peut-être plus connues mais avec lesquelles on n'a pas forcément de lien individuel. Voilà, est-ce qu'il y a vous des figures comme ça qui vous ont inspiré, ou est-ce que vous vous êtes inspirée toute seule, ce qui est aussi complètement possible et extrêmement badass?
Moi, la figure qui m'a inspirée, c'est celle d'Elisa Rochas, qui est une avocate handicapée qui bosse pour le CLE. Et donc, en fait, quand j'ai découvert le CLE, ça m'a vraiment inspirée.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le CLE?
Collectif de lutte et émancipation des personnes handicapées. Et donc, c'est une association, pareil, anti-validiste, qui bosse en non-mixité. Et ils ont fait un super manifeste sur leur site que je vous invite à aller voir. Et donc, moi, j'ai découvert l'anti-validisme via cette association, en fait. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ça m'a vraiment inspirée. Quand j'ai lu le blog d'Elisa Rochas, ça m'a inspirée aussi. Et donc, voilà, enfin, inspirée dans le sens politique du terme. Voilà, c'est quand j'ai vu ce qu'une personne handicapée pouvait faire, je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je fasse ça, moi aussi, je veux me faire interviewer, moi aussi, je veux écrire des choses, je veux écrire des textes.
Et toi, Céline ?
Moi, peut-être que les premières figures qui m'ont marquée, qui m'ont motivée, ce serait à travers le mouvement pour la vie autonome. C'est-à-dire que donc, moi, je suis dépendante pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et donc, j'ai des auxiliaires 24 heures sur 24. Et quand j'ai pris mon indépendance à 21 ans, c'était en 2001, il n'y avait pas encore la loi de 2005 sur le handicap qui permettait ça. J'avais vraiment très peu d'aide pour accéder à ça. Et il y avait ce mouvement qui promouvait la vie autonome pour les personnes ayant ce niveau de handicap. Et il y a Mireille Mahler, une personne qui avait 20 ans de plus que moi, et qui m'a un peu coachée et qui était très impliquée dans ce mouvement-là. Et à l'époque, c'était une parole assez peu connue, assez rare, et qui politisait vraiment ce fonctionnement en autonomie, c'est-à-dire embaucher soi-même les auxiliaires de vie, ne pas passer par les boîtes qui nous envoient des gens très standardisés et qui vont nous imposer les horaires de lever, de coucher. Là, c'était revendiquer le droit de gérer sa vie de A à Z. Et c'était un grand souffle de liberté et avec ce côté politique déjà derrière. Et je pense que c'est la première figure qui m'est...
Bah pareil, on mettra des ressources pour aller voir ce que c'est que le mouvement de la vie autonome. Et de même pour Elisa Rojas. Elisa qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Mister T, et vraiment c'est un très très bon livre. J'espère, normalement Elisa, on devrait la recevoir bientôt sur le podcast. Merci beaucoup alors Céline et Clémentine d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. On va donc, comme je disais tout à l'heure, mettre tous les liens sur lesquels on peut retrouver les dévalideuses pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir vous soutenir et porter, diffuser aussi la parole que tient les dévalideuses. Et voilà, merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à toi pour l'invitation.
Ouais, merci beaucoup de nous avoir invités et merci d'avoir pris le temps de nous écouter.
C'est avec plaisir. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous.